Bienvenue dans l'entreprise de nouvelle génération, le podcast du futur du travail en entreprise qui vous est proposé par Hola Spirit. Avec vous, nous allons découvrir ceux qui pratiquent déjà dans leurs entreprises pionnières ce futur du travail, ceux qui expérimentent de nouvelles gouvernances et explorent l'innovation managériale. Ils vont nous raconter leurs démarches, leurs succès, leurs échecs, les questions qu'ils se posent. Et la règle est claire, pas de langue de bois et une totale indépendance de ton. Avant de démarrer, un petit rappel, le sommet de l'entreprise de nouvelle génération se tiendra les 26 et 27 mars 2020 au centre de conférences Pierre Mendès France du ministère de l'économie et des finances avec des intervenants de haut niveau venant d'une trentaine de pays. Des tarifs sont déjà disponibles pour les premiers inscrits. Cet événement sera l'occasion également d'une remise de trophées de l'entreprise de nouvelle génération avec les SEC, les Échos, le Parisien, Hola Spirit, Manpower, Maïf et Octo Technologies. Trophées auxquels vous pouvez postuler si vous avez une démarche de gouvernance ou de management innovante. Les inscriptions se font sur thenextgenenterprise.com. J'ai comme toujours à mes côtés pour animer ce podcast Luc Breton, organisateur de l'événement. Bonjour Luc.
Bonjour Emmanuel.
Et nous sommes avec Olivia Grégoire. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes députée LREM de la 12e circonscription de Paris, présidente de la commission spéciale Pacte et membre de la commission des finances. Alors Olivia Grégoire, la loi Pacte, elle a pour objet d'accompagner la croissance des TPE et des PME et plus globalement d'aller vers un capitalisme plus responsable. C'est une conviction que vous portez en tant qu'ancienne chef d'entreprise vous-même d'ailleurs, mais comment concrétiser cette transition ?
C'est une très vaste question à laquelle je pense qu'on va prendre quelques minutes pour répondre. Déjà, la loi Pacte est une loi qui est quelque part une entreprise de nouvelle génération, au sens d'une action de nouvelle génération, dans la mesure où elle a été imaginée, portée et déployée de façon assez innovante par rapport à ce qui se fait habituellement au sein du Parlement et dans le cadre des travaux parlementaires. Pourquoi la loi Pacte est ipso facto une entreprise nouvelle génération ? Parce que c'est une méthode très particulière que nous a proposée Bruno Le Maire. Dès l'été 2017, en fait, ça faisait quelques mois seulement que j'avais été élu, il a proposé dès le mois de septembre 2017 à des entrepreneurs de la vraie vie, ayant vraiment de vraies entreprises, et à des parlementaires nouvellement élus, de former 6 binômes. Donc nous avons été 6 binômes, parmi lesquels j'ai eu le plaisir de siéger. Et il nous a dit, voilà, nous avons identifié 5-6 thématiques qui sont soit problématiques parce qu'elles empêchent la croissance et le développement de nos entreprises, soit qui peuvent être séduisantes parce qu'elles proposent peut-être de nouvelles façons d'imaginer la gouvernance d'entreprise. Et donc vous avez plusieurs mois, il nous a laissé 4-5 mois, de septembre 2017 à janvier 2018, pour très simplement écouter des entrepreneurs, écouter des salariés aussi, écouter des fédérations professionnelles, des vrais acteurs de l'économie réelle, pour voir ce qui ne fonctionnait pas et ce qu'on pouvait améliorer dans le fonctionnement quotidien. Je prends ce temps parce que j'ai un peu d'expérience politique et je prends ce temps pour vous dire que ça n'est pas ainsi qu'en règle générale les projets de loi sont imaginés ou fomentés. Bien souvent, et j'ai eu le plaisir d'en voir quelques années par le passé, le ministre, l'exécutif, présente sa copie aux parlementaires et dit « voilà les grands axes que j'ai voulu promouvoir, n'hésitez pas à améliorer, enrichir le texte par le biais d'amendements, mais voici la structure de mon texte, présenté d'abord en commission puis au Parlement. » Et en général, le ministre vous présente un texte qui est prêt à emploi à 80%. Lorsque Bruno Le Maire a mis en place ses binômes, moi je lui ai très simplement posé une question de façon assez directe puisque c'est dans mon ADN. Je lui ai dit de deux choses l'une, Bruno, ou c'est une stratégie de communication qui est plutôt sympathique mais qui consisterait à nous dire allez, partez, bossez et revenez dans quelques mois nous faire des propositions, on verra si elles peuvent rentrer dans le cadre de ce qu'on a imaginé. Donc en gros, je lui ai demandé, Bruno, est-ce que la copie est un peu écrite ou est-ce qu'elle est blanche ? En réalité, la copie était sincèrement et réellement blanche. Et c'est important parce qu'il nous a laissé quelque part, à nous les parlementaires, mais aussi aux entrepreneurs, une grande liberté dans l'expression des problèmes, dans le diagnostic que nous posions sur le développement de nos entreprises, leur financement, mais aussi, et nous aurons plaisir d'en parler, sur leurs valeurs, leur gouvernance et leur responsabilité sociale et environnementale. Donc, C'est important parce que, bien souvent, et à juste titre, on dit la loi tombe. L'exécutif a fomenté ça dans un bureau au sixième étage de Bercy. Eh bien non, ça n'a pas été imaginé comme ça. Et c'est important aussi de vous dire que ça a été innovant en amont, mais c'est aussi innovant, cette loi Pacte, en aval. Et là, j'ai quelques informations importantes et qui ne sont pas encore diffusées à vous transmettre. La loi Pacte, comme toutes les lois, on va être clair, elle n'existe pas le jour où elle a été votée solennellement au Parlement. Le 22 mai 2019, nous avons ce texte a été voté, validé par le Conseil d'État, mais en réalité, tant qu'un texte n'est pas entré dans la vie des entrepreneurs et des salariés, il n'existe pas. Pour passer l'atmosphère et rentrer dans la vie des gens, il faut publier des décrets d'application qui permettent la mise en œuvre de la loi. Une loi, c'est beau, mais sans décret, ça vaut rien. Je ne vous ferai pas la liste des lois, par exemple, de l'ancienne mandature, sur lesquelles nous ne sommes pas encore à 100% de publication des décrets. Et donc, ce qui est important, c'est que Bruno Le Maire, il y a une dizaine de jours, a fait une grosse conférence à Bercy pour lancer une grosse campagne de communication pour faire connaître le pacte. Et il a engagé l'administration, les services, mais aussi les parlementaires, autour de la publication des décrets. Au moment où je vous parle, ce sont 37% des décrets d'application du pacte qui ont été publiés. L'objectif est clair, c'est que tous les décrets d'application soient publiés 6 mois après la promulgation du texte de loi, soit le 22 novembre. Si jamais c'est décembre, c'est pas très grave, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a une vraie volonté politique qu'on aille vite dans l'exécution et le déploiement de la loi. Cette loi est lourde, et j'en suis assez fier, elle n'est en rien fourre-tout, elle est fournie. Nous avons démarré avec 73 articles. Cette loi, aujourd'hui, en compte 221. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a triplé de volume. On peut le voir de différentes façons, moi je le vois résolument, de la façon suivante, c'est parce que les parlementaires aujourd'hui, notamment les députés, sont pour la plupart issus de la société civile, parce qu'ils ont été eux-mêmes salariés ou entrepreneurs, parce qu'ils le sont pour certains encore, qu'il y a eu une vraie volonté d'améliorer, de préciser et d'enrichir le texte, de sorte à ce qu'il a gonflé et qu'il a grossi. Mais ça témoigne d'une forte volonté des parlementaires de s'engager sur les problématiques économiques de façon très opérationnelle, et je trouve que c'est plutôt un bon signe. 221 articles, 221 dispositions, c'est énorme, c'est aujourd'hui le plus gros texte du quinquennat, c'est un signal politique important aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus gros texte politique du quinquennat concerne les entrepreneurs, TPE, PME, mais aussi les salariés. Et j'en termine, un texte n'existe que lorsque les décrets d'application sont publiés, un texte n'existe que lorsqu'il est aussi précisément évalué par les parlementaires. Le job d'un parlementaire est simple, il tient à 2 missions. 1. Faire la loi. 2. Évaluer la loi. Lundi 30 septembre sera mis en place aux côtés du Premier ministre par France Stratégie et son directeur Gilles de Margerie le comité d'évaluation du pacte pour parvenir à voir comment dans les mois qui viennent l'ensemble des dispositions du pacte vivent et s'il faut pour certaines améliorer ou préciser des choses. En attendant, c'est une loi qui a été votée avec, si vous m'autorisez, à l'intérieur même de la loi, un dispositif d'évaluation, comme ça avait été le cas pour la loi Macron en 2015, qui comportait elle-même sa propre évaluation au sein du texte de loi. Donc ça, c'est assez innovant. Ça n'est pas le cas dans tous les textes de loi, que vous ayez cette dimension d'évaluation, et que ce soit dans la faction et dans la préparation en amont ou dans le déploiement en aval, il y a autour du pacte une façon de procéder qui est assez innovante.
Alors justement, cette innovation, on comprend bien qu'elle a associé donc des entrepreneurs, ou en tout cas des personnes qui avaient un profil d'entrepreneur, ont passé d'entrepreneur, ce qui est très réconfortant sur la capacité à intégrer des choses qui vont vraiment changer la vie de la société civile et puis des gens qui prennent des risques et qui font de l'entreprise au quotidien. Est-ce que vous avez également intégré un benchmark international? Parce que finalement, sur les nouvelles générations d'entreprises, des entreprises à mission dont nous allons plus particulièrement parler, il y a beaucoup d'initiatives. Alors on en a compté aux États-Unis avec B Corp, on en a compté dans l'Europe du Nord, également en Italie. Est-ce que vous êtes inspiré de ces éléments-là, je dirais, dans la conception même du principe d'entreprise à mission et dans la loi Pacte?
Oui, et 3 fois oui, alors même, et j'aime toujours à le rappeler parce que c'est très vrai au plan social et j'ai eu l'occasion de le vivre. Vous savez, on a un pays fantastique et on a une opinion, toujours intéressant de le savoir, qui est assez peu sensible au benchmark. Je vous le dis parce que dans une autre vie, j'avais mis en place l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Voyez-vous, ça ne nous rajeunit pas, 2006.
Bravo.
Et en l'occurrence, et je le dis en fumeuse, hein, je fume encore, mais c'était une bonne loi. Et Xavier Bertrand avait fait tout un travail à l'époque de benchmark en expliquant à l'opinion que parce qu'en Italie, parce qu'en Espagne, parce que... Et on voyait très bien que les Français, quelque part, se disaient, c'est pas parce qu'ils l'ont fait en Italie ou en Espagne que c'est valable pour la France. On a cette indépendance chevillée au corps et ça fait partie de notre charme. Néanmoins, le benchmark au plan économique sur les sociétés à mission a été fait. Là où vous avez raison, mais je pense qu'on va y revenir sur le plan international après, mais ce qui est sûr, c'est déjà qu'en Europe, nous avons quelques modèles fort intéressants, que ce soit en Allemagne, au Danemark aussi, et nous nous sommes inspirés de la société, pour la société à mission, bien sûr, de ce qui a été fait dans d'autres pays, mais on s'est beaucoup inspiré de l'Allemagne et du Danemark sur le troisième étage de la fusée dont j'espère que nous aurons le plaisir de parler, sur les fondations d'actionnaires. Fondation d'actionnaires qui est le troisième étage de la fusée proposé dans le chapitre 3 du pacte, où nous avons un premier étage qui est la raison d'être, un deuxième étage qui est la société à mission, nous allons en reparler je pense, et un troisième étage qui est la fondation d'actionnaires. En un mot, fondation d'actionnaires, ça veut dire que tout ou partie du capital d'une entreprise peut être désormais cédé de façon gratuite et irrévocable à une fondation qui va orienter ensuite la stratégie et la finance, grâce aux dividendes qu'elle va percevoir, sur des causes, elle va aller financer des causes d'intérêt général, qu'elles soient environnementales, sociétales. Et ça, en fait, c'est l'inverse de la logique d'un fonds d'investissement, les fondations d'actionnaires. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de prendre une participation pour tirer une rentabilité à court terme. Il est là question, au contraire, de dégager une partie du capital et de garantir une forme de stabilité du capital et une vision de long terme. Ce type de fondation d'actionnaires ou fonds de pérennité économique, comme ils sont présentés dans le texte de loi, sont directement inspirés de ce qu'ont fait le Danemark et les Allemands notamment. Avant que nous votions le pacte, il y avait, je crois, un seul groupe qui avait mis en place exactement ce que nous proposons. C'était le groupe Avril, qui détient les huiles Le Sieur et Puget. Mais à l'étranger, ce qui nous a beaucoup inspiré, ce sont les modèles, par exemple, de Lego ou de Velux au Danemark. Le Danemark compte 1350 fondations d'actionnaires. L'Allemagne en compte 1000, avec des très grands fleurons comme Bosch ou Thyssen. Et ce sont des exemples très concrets qui ont inspiré mon collègue et ami, parce qu'il était dans le pacte, mais qu'il dirige aujourd'hui En Marche, mais qu'il a écrit ses lignes, à savoir Stanislas Guérini, qui a beaucoup travaillé sur ces modèles de gouvernance d'entreprise. Donc oui, au benchmark.
Merci.
Et on rentre dans le vif du sujet, je pense, puisque c'est celui de l'entreprise à mission. Donc une des spécificités de la loi Pacte, c'est de prévoir pour l'entreprise la possibilité de se définir dans ses statuts comme une entreprise à mission et de préciser sa raison d'être. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un peu en détail et pourquoi sous cette forme? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas sous un nouveau statut qui pourrait être celui d'une entreprise à mission? Pourquoi est-ce qu'on est dans ce dispositif particulier?
Et est-ce que ce statut, puisque c'est une question qu'on entend et qui revient régulièrement, il est suffisamment fort pour en faire quelque chose qui soit l'objet d'une évaluation et qui engage véritablement l'entreprise à autre chose que juste une intention. Voilà.
Alors, je vais déjà commencer, pardonnez-moi, à répondre à la question de Luc Breton. Oui et trois fois oui. La façon dont nous avons imaginé la société à mission intègre quelque part une évaluation et une dynamique de contrôle, hein, avec un conseil des parties prenantes qui est indépendant du conseil d'administration et qui doit venir confirmer, consolider le fait que la mission mise en exergue par l'entreprise et la raison d'être sont respectées dans l'ensemble des process de l'entreprise. Donc je pour le dire trivialement, la déclaration d'une raison d'être bêlante au sein d'une société à mission pour des objets de marketing ou de communication souffrira peut-être le passage d'un communiqué de presse, mais ne saurait souffrir beaucoup plus longtemps au sein de l'entreprise, parce qu'être une société à mission, c'est avoir le statut. C'est avoir le statut d'une entreprise qui va plus loin que sa raison d'être et qui décide dans le quotidien de ses pratiques de RH, mais aussi de vente, d'export, de production, d'intégrer les fondamentaux qui sont au sein de son projet environnemental et social. Moi, il y a plusieurs choses qui me frappent et j'en reviens à votre question. Déjà, faut rappeler un peu le contexte parce qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans que moi, je travaille sur ce pacte et que la raison d'être maintenant, c'est un peu une lapalissade. C'est-à-dire que ça donne le sentiment que bien évidemment, mais c'est bien sûr, il fallait imaginer ce statut, c'est une évidence, etc. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je pense que oui, de cette fameuse publicité pour une voiture française petite d'il y a quelques années, qui commençait par un T, où on nous disait « mais c'est impossible, mais ça ne marchera jamais ». C'est à peu près ce que j'ai entendu pendant 1 an avec mes collègues parlementaires, c'est à peu près ce que nombre de cabinets d'avocats, de contentieux sont venus nous dire. C'est aussi ce que certains, au démarrage, à la chancellerie, nous disaient. Mais force est de constater qu'après des mois et des mois de travail, on a réussi à convaincre déjà des acteurs majeurs comme le MEDEF. Hein. Faut-il rappeler que le MEDEF était contre en 2017 et que changement de gouvernance, bien évidemment, oblige aussi. Il y a de nouveaux visages, une nouvelle équipe et qu'aujourd'hui, on a plutôt le soutien de grands acteurs comme le MEDEF et d'autres syndicats ou fédérations professionnelles. Et c'est drôle parce que ça fait partie de ces objets dans la société où avant, tout le monde nous dit c'est impossible ou c'est abscon et où après, on nous dit mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est une évidence. Ça fait encore partie aussi du charme de la politique. Comment c'est arrivé, en fait, cette idée de société à mission? Et j'ai besoin de le rappeler comme ça parce que c'est quelque chose qui est résolument au cœur de notre société et qui n'est pas vraiment une question basique de statut juridique. Je crois qu'il y a aussi un sujet d'offre et de demande. En réalité, le simple fait de faire du chiffre d'affaires, des bénéfices et de parvenir à obtenir des dividendes pour ses actionnaires, si ça demeure évidemment nécessaire, semble de moins en moins suffisant, aussi bien pour l'interne, pour les salariés qui sont en quête de sens, que pour l'externe, et je pense aussi aux nouvelles générations qui arrivent et qui consomment, et qui sont résolument en quête de sens. Il y a énormément d'études passionnantes qui sont faites. Et par exemple, pour les salariés, annoncer qu'on va faire 2% de croissance dans son entreprise est certes séduisant, mais n'est plus suffisant pour parvenir à recruter et à attirer des talents, ce qui est aujourd'hui le sujet de notre pays, que d'attirer les compétences. Aujourd'hui, pour 7 jeunes sur 10, le sens est plus important que le salaire dans le choix d'un job. Ça n'est pas anodin et je pense que ça va continuer. Par ailleurs, les clients ont aussi évolué. On le voit dans les affichages de labels, dans les quêtes de transparence, dans toutes ces applications qu'on a, à commencer par moi, qui vous permettent de voir ce qu'il y a dans tel ou tel produit, qu'il soit cosmétique ou alimentaire. Et on est de plus en plus en recherche de sens et surtout d'une vérité. On ne supporte plus qu'une entreprise mente et affiche une réalité ou en tout cas une ambition environnementale et sociale et qu'elle fasse l'inverse. Donc ça ne passe plus et quelque part, il fallait imaginer une définition de l'entreprise qui puisse dépasser le seul intérêt économique de l'entreprise et intégrer cette dimension sociale. Aujourd'hui, c'est quoi la société à mission? C'est 3 choses. Une société à mission doit permettre, par 3 moyens, 3 biais, de démontrer qu'une entreprise prend en compte son engagement. Premièrement, la société à mission a établi un cadre. Il n'y avait pas de cadre. Et ça n'est pas rien que d'être allé modifier le code civil. C'est un grand geste. Et puis historiquement, on le fait pas souvent. Le code civil est donc modifié pour préciser que l'entreprise doit être attentive aux enjeux sociaux et environnementaux. C'est un rappel. Elle doit ensuite définir son utilité. L'entreprise va donc se donner une raison d'être dans ses statuts. Et ensuite, avec la création du statut d'entreprise à mission, ce que je vous disais tout à l'heure, un organe social distinct de la gouvernance propre de l'entreprise, c'est-à-dire pas le conseil de surveillance et pas le conseil d'administration, va être chargé de veiller au bon déroulement, au bon respect de la mission qui a été édictée. J'ajoute qu'au sein de cet organe social, des représentants des salariés peuvent aussi être représentés, ça me semble important.
Alors ce conseil des parties prenantes, peut-être on peut s'arrêter 5 secondes dessus, il est constitué comment essentiellement? Enfin, quelles sont les parties prenantes qui vont...
Il y a différents types de parties prenantes. Typiquement, on revient aussi sur l'histoire du décret, parce que ça fait partie des décrets qu'on attend impatiemment, parce que ça n'a pas encore été défini. Donc là, on est dans la période un peu de flou. Il faut nous laisser quelques semaines encore, mais C'est un collectif d'experts et ou de personnes engagées dans l'entreprise, mais ça peut aussi être des experts issus d'ONG, d'associations qui font sens en cohérence par rapport à la mission édictée, qu'elle soit sociale ou environnementale. Si c'est par exemple une mission sociale auprès, que sais-je, par exemple de soutien fort aux familles monoparentales, vous aurez et vous pouvez avoir dans votre comité d'évaluation de la société à mission des représentants d'ONG ou d'associations qui connaissent très bien ce secteur, en parallèle des représentants des salariés aussi qui promeuvent ou qui pas dénoncent parce que le mot est trop fort ou qui critiquent parfois la cohérence entre ce qui est affiché et ce qui est fait. Donc vous avez, je dirais, à la fois de l'interne, mais vous aurez aussi possibilité d'avoir de l'externe. On est aussi en train, il faut regarder, de voir qu'est-ce qui se passe, parce que c'est aussi la question importante, si les critères édictés dans le cadre d'une société à mission ne sont pas respectés. Je ne crois pas qu'une logique de sanction, encore moins pécuniaire, soit la bonne, mais je pense qu'il est important qu'on puisse, ou que les salariés puissent peut-être, et donc c'est à voir, et c'est au sein des décrets qu'on est en train d'y travailler, que les salariés aussi puissent, et le comité d'évaluation de la société à mission, dire « il y a incohérence » entre l'affichage et le réel. Donc tout ça est important. On est en train de définir les limites. Il y a pas mal de succès au moment où je vous parle pour les sociétés à mission. Et moi-même, je vais vous dire, j'en suis un peu... j'ai ravi, mais j'en suis étonné parce que je ne m'attendais pas à ce que ça aille si vite. On avait des pionniers que vous connaissez, je crois, comme la Maïf, qui avait déjà pris de l'avance, mais ça a suivi très vite avec Atos, avec le Crédit Agricole, avec Veolia et Antoine Frérot, qui a un discours très clair sur pourquoi il a fait bouger Veolia. Et comme si ça ne suffisait pas, Bruno Le Maire, la semaine dernière, a annoncé, et j'en suis ravi, mais je ne suis pas sûr que ça ait été très entendu, donc j'ai plaisir à le rappeler. Bruno Le Maire a demandé à l'ensemble des entreprises où l'État a une participation, par le biais de l'Agence des participations de l'État ou de BPI France, de prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux dans leur gestion et de se doter d'une raison d'être pour 2020. Ça n'est pas rien, parce que ça veut dire que beaucoup d'entreprises publiques, dans les prochains mois, vont se doter d'une raison d'être et rêvons un peu ensemble, pourquoi pas, pourraient devenir des sociétés à mission. Donc il y a une forte impulsion politique.
Sur ce respect de la mission, pour être bien sûr d'avoir compris, on peut imaginer une entreprise qui définit une mission très orientée, développement durable, etc., et qui derrière n'a pas une cohérence globale dans son entreprise, qui va respecter la mission finalement, faire du développement en Afrique, s'occuper des handicapés, etc., et qui finalement en interne, très concrètement, ne va pas du tout aller dans le sens d'une économie durable. Est-ce que le dispositif que vous venez de décrire, de pas de contrôle, mais en tout cas de, on va dire de, d'encadrement et d'évaluation, suffit pour qu'on soit sûr du respect d'une cohérence interne, une cohérence de l'entreprise vis-à-vis de la mission?
C'est vous qui avez dit pas de langue de bois, donc je vais J'ai pas de réponse à votre question au moment où on se parle. Le dispositif a été voté il y a quelques mois. Beaucoup d'entreprises, notamment un collectif des entreprises à mission s'est créé. Les entreprises partagent aujourd'hui des bonnes pratiques sur la piste du comment on met en place ça. Nous sommes vigilants, nous les parlementaires, sur les décrets d'application qui vont expliquer la mise en œuvre de ces dispositifs de société à mission. Je n'ai pas précisément la réponse à votre question. Ce que je sais, c'est qu'au plan de l'impulsion politique, il faut faire attention à une chose, et c'est peut-être mon naturel qui reprend le dessus, mais je pense que faut laisser un peu vivre les sociétés à mission, faut qu'elles se créent et qu'on surveille et qu'on évalue, mais je pense qu'il faut pas être, pardonnez-moi l'expression, castrateur dans ce déploiement. C'est-à-dire que c'est très important que la France prenne ce virage. Si avant même que j'arrive à promouvoir les sociétés à mission avec mes collègues parlementaires, j'explique tout de suite que attention, vous allez vous faire taper très violemment si jamais, on n'aura pas de société à mission en France, parce que la peur prendra le dessus sur la dynamique. Donc c'est une question d'équilibre, c'est pas de la langue de bois ce que je dis, hein, c'est justement l'inverse, c'est-à-dire que j'ai pas exactement la réponse à ce que vous me dites. Ce que je sais, c'est que, et Bruno Le Maire me l'a appris en politique, donc je vais le partager avec vous. Ce que vous me dites là, en politique ou chez les parlementaires, on appelle ça des dispositifs anti-abus. C'est difficile, et c'est une macroniste pur jus qui vous le dit, d'ouvrir en même temps impossible et en même temps de tout de suite mettre les barrières. Il y a une question de confiance. Alors, c'est peut-être moins incarné dans la société à mission, mais je vais vous donner un exemple très rapidement. On a supprimé le seuil de 20 salariés et on a assoupli le seuil de 50 salariés dans le chapitre 1 de la loi Pacte. Il peut y avoir des abus, bien sûr. Il va y avoir des filous, comme toujours. Vous allez avoir des patrons d'entreprise qui vont faire 47 salariés, puis qui vont redescendre à 46 pour rebénéficier des 5 ans et qui vont remonter à 48. Bon, on le sait, c'est de bonne guerre. En revanche, quand on a proposé, nous les parlementaires, de mettre en place peut-être des dispositifs anti-abus autour de ce passage de seuil de 50, Bruno Le Maire, à juste titre, et je l'ai appris, comme ça on apprend aussi en politique, a dit on mettra un dispositif anti-abus si on voit qu'il y a de l'abus. Mais si en même temps que vous ouvrez un droit ou une liberté, vous mettez tout de suite des clauses anti-abus, quelque part vous donnez un contre-signal aux entrepreneurs qui est bon, on vous donne une possibilité, mais on ne vous fait pas super confiance quand même. Et vous savez, la confiance, c'est ce qui tient tout. Et c'est ce qui tient aussi le rapport du politique avec l'économique. Et je pense qu'il a raison. Donc la société à mission, je dirais que c'est un peu le même raisonnement. On a ouvert un possible. Il y aura peut-être des abus. On sera les premiers, dans le cadre de l'évaluation, à les dénoncer, à renforcer s'il le faut. Mais on part du postulat quand même, de la confiance. J'ajoute à ça que c'est pas juste écrire sur un bout de papier « Je suis une société à mission et je veux faire du bien à l'humanité et l'amour c'est bien et la guerre c'est mal. » C'est beaucoup plus complexe que ça, une société à mission. Il faut remplir beaucoup de documents, il faut démontrer, prouver, justifier sa mission. Et là-dessus, par exemple, le modèle des bicorps a pu être assez inspirant, avec une centaine d'items à remplir. Ça n'est pas une mince affaire que d'être une société à mission. C'est pas un petit statut. C'est pas comme quand vous créez une entreprise qui m'est arrivée et que vous cochez EIRL ou SARL. Là, ça vous fait des différences fiscales. Mais la société à mission, c'est beaucoup plus complexe.
Et j'entends aussi dans votre discours, dans ce que vous disiez tout à l'heure, que il y a aussi le poids du consommateur qui peut peser si la mission n'est qu'un slogan et si l'entreprise, par ailleurs, dévite son...
Il peut même y avoir, je pense, des collèges de consommateurs dans le comité d'évaluation de l'impact de la société à mission. Ça fait partie des idées pas idiotes, je pense.
Donc vous vous êtes inspiré, d'une certaine manière, du framework B Corp, où vous avez repris des parties.
Enfin, oui. On s'est inspiré du framework B Corp, ce qui fera trembler mes collègues parlementaires de l'opposition qui détestent quand je parle avec des anglicismes, mais c'est my pleasure. On s'est inspiré, je dirais, dans une forme d'attirance-répulsion. Ça a été très attirant en termes de formalisme, puis des métriques, des indicateurs qu'ils avaient stabilisés. Effectivement, la certification octroyée par les B Corp, c'est quand même important. Il faut avoir 80 sur 200. Donc c'est quelque chose d'assez engageant. On s'est inspiré, tout en ayant une volonté politique extrêmement forte, de créer un modèle à la française, et si j'ai possibilité, je l'espère bientôt, à l'européenne. Pour le dire très simplement, on n'est pas loin d'un moment où on marche un peu sur la tête. Je rappelle que les B Corp aux États-Unis ont été développés maintenant depuis plusieurs années. Je rappelle que le plus grand fonds BlackRock d'investissement au monde est une B Corp, le plus grand requin, mais ça n'est pas méchant, mais le plus grand chasseur financier est aujourd'hui une B Corp. Et nous, on a voulu imaginer un modèle à la française, c'est-à-dire qu'on a regardé, ça nous a inspiré, mais nous n'avons pas tout pris, nous n'avons pas pris la même méthode. Être une société à mission n'est pas un QCM de 200 indicateurs. Et moi, j'ai quelque chose aujourd'hui qui m'interpelle, c'est qu'on n'est pas loin de marcher sur la tête avec des Américains qui ont imaginé ce modèle de B Corp il y a maintenant quelques années, et dans la compétition mondiale de l'autre côté des Chinois, qui cet été, je vous rassure, en plein mois d'août, donc peu de monde l'a vu, mais j'ai ouvert les yeux et pour le coup, je l'ai vu. En août 2019, la Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine a démontré que Pékin était en train de travailler et de consolider des critères un peu dans l'idée Bicorp, critères de contrôle social et environnemental pour noter toutes les entreprises qui opèrent sur le territoire d'ici à la fin de l'année. Ce que je vous dis en un mot, c'est que les Américains ont leur modèle, les Chinois ont leur modèle, et dans la compétition internationale, l'Europe. Aujourd'hui, la France a son modèle, l'Allemagne a une partie de son modèle, mais nous n'avons pas un modèle unifié. On n'est pas loin du moment où l'Europe, la belle et vieille Europe, qui est quand même celle qui a le plus grand nombre d'entreprises qui pratiquent une véritable RSE, sans mentir, sans incohérence, et pas loin de se voir édicter ou en tout cas influencer pour que les critères qui vont venir définir la RSE en Europe et les entreprises dites responsables soient diversement d'inspiration américaine ou chinoise. Moi, comme, je suis parlementaire
comme
française.
Comme les operating systems de nos
voilà.
téléphones, en fait.
Voilà. Ouais. Et comme beaucoup d'autres choses. Et donc là, ce que vous dites, Luc Breton, c'est simple, c'est une question de souveraineté. Soit on arrive dans les mois qui viennent, et on est plusieurs parlementaires à s'y intéresser, à pousser au plan européen. Et il y a peut-être un momentum. On a une nouvelle commission. On a des parlementaires au sein de Renew qui sont plutôt des progressistes, qui sont sensibles à ces questions. Moi, il y a beaucoup de parlementaires européens avec lesquels j'échange là-dessus. On a une opportunité qu'il va nous falloir saisir extrêmement rapidement pour imaginer le même modèle à l'européenne. Le cas échéant, c'est assez simple, ça nous sera imposé par les Américains ou les Chinois. Alors, ça veut dire quoi aujourd'hui, imaginer ce type de dispositif à l'Europe? C'est très simplement, il faut que l'Europe développe son propre référentiel. Il faut que l'Europe, et c'est en cours, sont des informations importantes, il faut que l'Europe et la France définissent eux-mêmes leur, ce qu'on appelle les critères de notation extra-financière. Une mission est en cours. Elle a été, c'est M. De Cambourg qui a été chargé par Bruno Le Maire d'une mission sur la notation extra-financière. Il faut ensuite que ces données de notation extra-financière soient rendues visibles. Il y a une question de données, hein. C'est par ici que ça passera. C'est-à-dire, faut-il imaginer par exemple une plateforme avec publication des données extra-financières des entreprises européennes? C'est une idée sur laquelle je réfléchis. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle des PCN. C'est des points de contact nationaux dans le cadre de l'OCDE. Vous avez des points de contact nationaux qui sont en charge de faire appliquer les principes de la conduite dite responsable des affaires. Je trouverais intéressant, et j'en ai parlé à ma collègue et amie, mais qui n'est malheureusement plus parlementaire, mais qui est heureusement une très bonne secrétaire d'État aux affaires européennes, Amélie de Montchalin, je lui en ai parlé récemment, nous pourrions imaginer d'unifier, voire de fusionner les points de contact nationaux au plan européen pour parvenir à avoir une plus grande capacité d'action et demander et mettre en œuvre, je dirais, une réflexion puis une définition de la raison d'être et de la société à mission européenne. Le cas échéant, nous subirons les référentiels américains et chinois. Le cas échéant, c'est une perte lourde de souveraineté qui nous attend.
Cette dynamique européenne, elle est absolument fondamentale à mes yeux. Bon, j'ai beaucoup agi dans le cadre de l'Institut G9+, pour avoir une dynamique franco-allemande sur le numérique. Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle passe par cette dynamique franco-allemande, ou est-ce que vous voyez les choses différemment?
Incontestablement. Mmh. Notre premier allié et je dirais notre sparring partner, pour continuer en bon français, du quotidien sur ces sujets-là, c'est le CNDD, le Conseil National du Développement Durable allemand. Alors tout l'enjeu, c'est un peu toujours la même chose, hein, et c'est la même chose au plan fiscal, et vous connaissez mieux ces questions que moi, mais on a eu le même problème sur la taxe GAFA aussi. On a cette règle de l'unanimité qui est assez, pour ne pas dire très problématique, j'en dirai pas plus, mais... Que l'Allemagne et la France commencent le chemin ensemble rapidement, oui. Mais il faut absolument qu'on embarque l'Europe du Nord. C'est une condition sine qua non. Si on n'a pas le Danemark, la Suède qui nous suit... Ou si
mais qui
on a
sont par construction très favorables à ce
oui,
genre de
choses.
Oui, mais
vous savez comme moi que le par construction en Europe peut vite voler en éclats pour des raisons fiscales, pour des raisons... l'Irlande suivra? Est-ce que... Voilà. Il suffit que l'Irlande nous bloque et j'ai pas de société à mission européenne.
Cette dynamique franco-allemande et éventuellement avec des pays du nord de l'Europe, très concrètement, elle démarre par quel type de travaux et quelles sont les entités qui sont à l'œuvre aujourd'hui pour faire la suite de la loi Pacte et passer à at scale, à l'échelle, comme on dit en bon français, au niveau du continent.
Bah déjà, il faut d'abord et avant tout une volonté politique, parce que c'est bien d'avoir des organes, des acteurs institutionnels, mais il faut d'abord et avant tout une impulsion politique forte qui pourrait venir soit du ministre de l'économie, soit de plus haut, du Premier ministre. Ça pourrait prendre la forme d'un travail, par exemple, parlementaire. Je dirais que la plupart des acteurs aujourd'hui institutionnels, dans les quelques pays européens qu'on vient de citer, qui s'intéressent à ce sujet, sont prêts à travailler ensemble. C'est le sentiment que j'ai. Encore faut-il une véritable et l'affirmation d'une véritable volonté politique. Mon petit doigt, qui est très bavard, me dit que quand on lit le discours d'Emmanuel Macron à l'EIT ou quand on écoute ses dernières prises de parole sur la responsabilisation du capitalisme ou celle de Bruno Le Maire, je pense que ce qu'on se dit là va résolument dans la bonne direction. Donc maintenant, il faut une volonté politique et c'est peut-être les parlementaires qui peuvent la booster.
Quel serait le partenaire idéal côté allemand, soit au niveau politique, soit au niveau de la société civile et des gens qui travaillent à ces référentiels d'entreprises ou de sociétés à mission? Est-ce que vous avez quelques noms à partager d'acteurs clés dans ce débat?
Non, pour deux raisons. D'abord parce que je travaille un dossier, à une note que je vais remettre à qui de droit dans les prochaines semaines sur ce sujet. Donc, comme c'est assez rare que j'ai de bonnes idées, vous m'autoriserez à ne pas les partager.
Question, en fait.
C'est une très bonne question parce que je ne peux pas y répondre. Et je vous répondrai pas parce qu'en plus... la liste, en tout cas le casting qu'on imagine, encore une fois, je suis beaucoup plus obsédé par parvenir à déclencher une volonté politique que par vous dire... après, c'est la partie facile, si vous voulez.
La réponse me rassure dans le sens où les acteurs sont identifiés et les travaux vont démarrer.
Donc ça, ce qu'il faut, c'est maintenant quitte à me répéter, mais il faut cette volonté politique.
Absolument.
Peut-être juste peut-être quand même juste une question. Vous disiez qu'il y a un engouement qui vous surprend pour la société à mission.
Je me réjouis.
Voilà. Et est-ce que ça, c'est pas un levier pour aller au niveau européen? C'est-à-dire, est-ce que les entreprises qui ont déjà adhéré à l'entreprise à mission et qui ont envie que ça se répande, j'imagine, ne serait pas un levier?
Et nos amis allemands étant très bottom-up, ils aiment bien les initiatives qui partent de l'entreprise. Donc c'est...
Je pense que ce sera, quitte à le répéter, pour moi ça doit être une initiative du « en même temps ». Je crois que c'est une initiative résolument politique. Bien sûr, l'exemplarité et l'assise économique que des entreprises le fassent, et non des moindres, c'est fondamental. Qu'elles parviennent à... Et que les politiques accompagnent ces entreprises pour qu'elles parviennent à faire connaître le modèle en Europe, c'est fondamental. Mais je pense que, sur ce sujet précis, ça relève à la fois, bien sûr, des entreprises bottom-up qui montrent que ça fonctionne et que c'est attendu aussi bien par leurs salariés que par leurs consommateurs. Mais je trouverais dommage qu'on se prive d'une volonté politique. Moi, je trouve ça très joli de me parler de responsabilisation du capitalisme, mais ça fait partie des expressions complexes à plusieurs syllabes où je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Moi, la responsabilisation du capitalisme, elle passe par ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Elle passe par cette réflexion sociale aussi à l'intérieur de l'entreprise. Elle passe par ce qu'on a fait au sein du pacte, même si certains estiment qu'on n'est pas allé assez loin, n'empêche qu'on a bougé, sur la transparence et les écarts de salaire. Elle passe par les questions de parité. Elle passe par les questions d'administrateurs salariés au sein des conseils d'administration. Il y en a 3 maintenant, il n'y en avait plus que 2. On en a mis plus 1, j'espère, et je pense que ça peut continuer. Donc, je pense que oui, les entreprises... sont la meilleure et la plus belle source d'inspiration pour que le politique s'en empare. Mais je pense qu'il faut aussi qu'au plan politique, nos députés, les commissaires européens démontrent qu'il y a une volonté et que c'est au moment où ces entreprises qui ont pris ce virage et cette volonté politique exprimée vont se rencontrer qu'on va réussir à faire quelque chose. On ne peut pas laisser les entreprises, et c'est une libérale pur jus qui vous le dit, on ne peut pas laisser les entreprises toutes seules porter à bout de bras ce modèle. C'est aussi aux politiques que de le reconnaître, ce modèle, et c'est aussi aux politiques de mettre la lumière sur leurs bonnes pratiques et sur ces entreprises. Et donc, il faut absolument, ça n'est pas qu'en laissant monter les bonnes entreprises et les bons exemples, bonnes pratiques et retours d'expérience de sociétés à mission qu'on fera forcément bouger la Commission ou le Parlement. Il faut que le politique s'en empare.
Très bien, mais écoutez, merci beaucoup Olivia Grégoire, c'est un éclairage très, très précieux sur le sujet de l'entreprise à mission en particulier et de la loi Pacte plus largement. Donc merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci Luc Bretonne. Merci à vous tous pour votre écoute et retrouvez-nous dans les autres podcasts de l'entreprise de nouvelle génération avec d'autres experts et praticiens du futur du travail.